Et le jour où, en effet, nous partagions un service avec plusieurs d'entre vous, il y a un peu plus de 30 ans, pour vous projeter, les JL, les Dino, les Anne-Laure, avaient quelques petites années, 6-7 ans. C'est dommage qu'ils soient partis, je leur aurais expliqué que ça existait, qu'ils avaient 6 ans ou 7 ans. Eh bien, on a vécu, envoyé par les anciens d'ici, 30 ans pour un essaimage à Chassieux, 20 ans pour un essaimage à Chassieux, et depuis la retraite, environ 4-5 années, au Chambon-sur-Lignon, sur la commune de Tinanche, où voilà, nous accompagnons l'Église et nous partageons avec d'autres frères et sœurs, bien sûr, la marche de cette Église. Voilà. Alors, j'ai un sujet aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas la tasse de thé de chacun. Le titre, c'est « L'enfer existe-t-il ?» Ça va, personne ne se lève? Vous avez peut-être connu, en tout cas pendant vos études, cette phrase célèbre de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». C'est tiré d'une pièce qui s'appelle « Huis clos ». Et cette affirmation était logique pour ce philosophe, parce que figurez-vous que cette pièce a été écrite en 1943. Des années de noirceur toute particulière en Europe. Et en 1965, je crois que c'est à Düsseldorf en Allemagne, en tout cas en Allemagne, Jean-Paul Sartre a expliqué cette phrase devenue célèbre, « Si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer ». Il est vrai que l'homme, sachant très malheureusement être un loup pour l'homme, de nombreuses personnes sont encore aujourd'hui en droit de dire que déjà sur cette terre, elles vivent une sorte d'enfer. Cette semaine, les médias nous ont communiqué que le peuple juif voyait sa discrimination augmenté de 74% en une année. Et l'Allemagne est alignée. Et pour parler quelques secondes ou petites minutes sur ce terrain, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, que l'enfer peut exister sur terre, au sens d'une oppression, et nos frères et sœurs dans le martyre peuvent ou sont autorisés à dire qu'ils peuvent vivre une sorte d'enfer. Et les 6 millions de juifs déportés, assassinés, ont droit à ce qualificatif. Et je dirais juste un petit mot pour finir. On a vu récemment un documentaire sur la fin du Troisième Reich, les derniers jours. Et pour moi, ça fait écho en Ésaïe 10, verset 12, « Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre de jugement sur son peuple, il punira le roi d'Assyrie pour les fruits de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. » Et vous savez qu'en deux petites années, les nazis ont été détruits, au point que c'est invraisemblable qu'en 3-4 années, le pays d'Israël a recommencé d'être habité par ses rescapés de la Shoah. Dieu était à l'œuvre. C'est une réalité, l'enfer terrestre peut en tant que tel être nommé pour ce que vivent certains. Mais bien entendu, mon propos aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler de l'enfer terrestre, mais de l'enfer céleste. existe-t-il, existera-t-il cet enfer? Vous savez, dans les religions d'obédience chrétienne, il y a différentes positions sur ce sujet. Je vais vous lire une lettre sans aucune critique. Vous la trouvez sur Internet. C'est une lecture froide d'analyse sur la communauté de Thésée, pas très loin d'ici, de juin 2005. Il est dit « Il fut un temps où la prédication chrétienne comportait une mention obligatoire de l'enfer à l'adresse des croyants tièdes ou un croyant réfractaire. De nos jours, par contre, la notion même d'un tel lieu de châtiment scandalise, tant il semble contredire la foi en un Dieu d'amour. Le Christ pourrait-il vraiment consentir à la perte définitive de quelqu'un pour qui il a donné sa vie jusqu'au bout? Il est un texte qui peut, en effet, dans la parole, dans la première lettre de Jean, il est dit dans le Sommeur, chapitre 2, verset 2, « Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et on pourrait donc être, dérouté ou partir sur une mauvaise direction en lisant ce texte. Mais la parole de Dieu nous dit dans son ensemble que si, bien évidemment, l'œuvre de Christ a une portée universelle, pour tous ceux qui sont en devenir d'enfants de Dieu, d'être enfants de Dieu, est-ce autant pour le cas de tous les hommes d'être en devenir, d'être enfants de Dieu? Cette lettre de Thésée continue aussi en disant « Mais existe-t-il vraiment une créature, un être humain, qui peut vaincre par son refus la patience, l'amour de Dieu ?» Alors, cette doctrine erronée s'appelle l'universalisme. Pour les plus âgés d'entre nous, elle se résume en un titre de film de 1977, « Nous irons tous au paradis ». En gros, c'est le résumé très concret. Quand on lit la parole en face de ces affirmations ou de ces communication, on lit des versets qui sont, à contrario, complètement opposés. Matthieu 13, 20, 50 nous dit « À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Un peu plus loin, en Matthieu 25, versets 31-32, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est un fait, donc, que la Bible nous parle d'une séparation. C'est un fait aussi que le sujet de l'enfer a été utilisé pour manipuler les gens. Il n'y a aucun doute là-dessus à dire que des pasteurs, par exemple, ont prêché sur l'enfer pour entraîner un public, même pour une décision rapide, par contrainte. C'est même... Hommes, pensant bien faire aussi, ont mis le bâton, vous savez, la pince qui fait lever les montagnes pour forcer à une morale chrétienne. L'imagerie populaire aussi a discrédité, voire ridiculisé l'enfer. savez, avec ces tableaux où on voit par exemple Satan avec sa fourche faire rôtir les impies. Pourtant, il est notre devoir, notre nécessité. Il est la nécessité pour tous les hommes d'être au clair sur ce sujet et d'entendre ce que la Bible nous dit à ce sujet. Jésus n'est pas venu pour nous guérir de nos bobos. Dans son extrême bonté, il nous accompagne et sait nous guérir de nos blessures. Mais Jésus est venu avant tout pour nous sauver de l'enfer. Et donc, nous ne pouvons séparer la doctrine de la croix de la doctrine de l'enfer. Si nous ignorons, renions l'enfer, nous enlevons la moitié du message de Christ. On parle souvent, on entend ce mot, il faut être sauvé. Et sauvé de quoi? Sauvé d'une situation dangereuse ou d'une situation agréable où il fait bon vivre? On n'est pas sauvé de quelque chose qui nous plaît, dans lequel il n'y a pas de risque, où on est bien à l'aise. On est sauvé, par définition, d'un risque majeur, d'un danger de mort sur terre, ou d'un danger de mort spirituelle au ciel. Christ est venu pour nous sauver de l'enfer, et pas seulement guérir nos petits maux terrestres. Mais au fait, depuis quand la Bible parle de l'enfer? J'ai lu des textes sur Internet, comme tout le monde, où certains disent « mais j'ai pas vu ce mot dans la Bible ». C'est vrai. Sauf dans certaines traductions. En fait, le mot « enfer » est un résumé et il est cité sur plusieurs... Il est le résumé de plusieurs autres mots, entre autres du mot « géhenne » qui veut dire « infernus ». Enfin, « enfer » veut dire « infernus », c'est-à-dire ce qui est en dessous. Et ce mot « enfer » on va dire, et le résumé d'autres mots, je viens de le dire, comme la seconde mort, le séjour des morts, les temps de feu, ainsi de suite. Vous savez, je me rappelle très bien, c'est Christian. Il y a 25 ans à peu près. On faisait une étude dans cette église sur la Trinité. Et il a dit, c'est drôle, ça fait 3 vendredis soirs qu'on parle de la Trinité pour un mot qui n'existe pas dans la Bible. Tu vois, c'est une vérité. Mais ce n'est pas parce qu'un mot n'existe pas, si ce mot est un résumé exact d'une situation, nous sommes en droit de l'utiliser. Pourquoi l'enfer est-il si important? Et en face de cet enfer, quelle attitude peuvent avoir nos conducteurs, comme l'apôtre Paul? Quelle extraordinaire certitude avait cet apôtre quand il disait en Philippiens 1:21 « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Il est un peu fada. Il fait si bon vivre. Mais il explique cela en 1 Corinthiens 15 en disant, dans la version second 21, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire ?» Il avait donc une certitude, une, que l'enfer existait, mais que lui n'irait pas en enfer. Alors ce mot « gêne », il est dans l'Ancien Testament, mais vous allez voir, il est très souvent dans le Nouveau Testament. Il vient du mot grec « géhenna », hein, qui est lui-même issu du mot hébreu Géinom, qui veut dire la vallée de Linon ou de Limon. En fait, c'est un lieu pour les Juifs qui résonnait très très fort, parce que c'était un lieu, on peut lire ça en Chronique et en Jérémie, où il y avait eu des sacrifices humains. Vous imaginez, pour nous-mêmes et pour un Juif, ce que ça voulait dire. Et au sens pratique de la chose, c'était un lieu où un feu brûlait constamment pour brûler les immondices. C'était en somme la décharge de la ville. Et vous imaginez l'odeur, l'ambiance et tout ça. Et donc, ça avait vraiment une signification d'horreur pour le peuple juif. Et cette notion que ça ne s'arrêtait pas. Alors ce mot gêne, il existe dans le Nouveau Testament aussi, on le verra un petit peu, dans les évangiles et dans l'épître, la lettre de Jacques. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 66, verset 24, nous dit « Car leur ver ne mourra point et le feu ne s'éteindra point. » Ou Daniel 12, 2 nous dit « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc la notion de séparation existait bien dans l'Ancien Testament. Mais soyons clairs, contrairement à la description, je vous ai parlé du diable qui avec sa fourche et ainsi de suite, la Bible ne nous donne aucun détail, je dirais, pratique ou matériel là-dessus. L'Ancien Testament nous informe d'un état, d'un nom d'un lieu, l'enfer, sans description précise, sans localisation géographique, mais un lieu séparé d'un autre lieu bienheureux qu'il appelle, que la parole appelle le paradis. Et il n'y a pas plus de définition, seulement le texte qu'on va voir, sur le lieu du paradis que sur le lieu de l'enfer. La seule vraiment description la doit à une parabole, celle bien connue, j'ai sauté quelques phrases pour aller un peu plus vite, du pauvre. Quand on lit le pauvre, c'est pas le pauvre en argent, c'est pas seulement, je veux dire, c'est avant tout celui qui est, au contraire, un riche spirituel. Un pauvre de cette terre, mais riche spirituellement, nommé Lazare, mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est une image. C'est-à-dire, il fut dans le lieu de la famille de la foi d'Abraham. C'est-à-dire avec ceux qui sont les enfants de Dieu. Okay? Le riche, matériellement sur cette terre, mais pauvre spirituellement, mourut aussi. Et il fut enseveli dans le séjour des morts. Vous voyez que la Bible parle de deux lieux distincts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous lisez, « Envoie Lazare vers moi. » Ce n'est pas moi le riche qui peut aller vers Abraham, vers Lazare. Abraham répondit. Il est entre nous et vous un grand abîme. Le mot est en gras. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit. Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes, je vous rappellerai que le sens prophète, le sens premier du mot prophète, ce n'est pas celui qui discerne l'avenir, c'est celui qui expose la parole de Dieu ou la pensée de Dieu. Chaque fois que quelqu'un d'entre vous partage un verset et explique ce verset ou le commente, il est prophète au nom de Dieu. S'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Il y a un grand abîme, il y a deux lieux. La Bible est claire. Et on ne peut annuler ces textes de la parole. En opposé à cela, je vais prendre une minute pour vous parler du purgatoire. Vous ne parlez peut-être pas de cette chose tous les jours. Mais c'est de nature à brouiller les cartes, à brouiller les discussions avec nos voisins, nos proches, nos collègues. Parution officielle de l'Église de Rome du 16-11-2008. C'est pas du temps de... Hein? N'oublions pas nos chers défunts, car s'ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes, nous pouvons ici-bas les soulager, les consoler, et même les délivrer des flammes purificatrices. Rappelons-nous donc les différentes pratiques que l'Église catholique recommande en faveur des défunts, la prière, le jeûne et l'aumône, les indulgences gagnées à leur intention et aussi la messe offerte à leur intention. Je n'ai pas à juger l'Église catholique. Je vous transmets ce qu'est son message et ce que vous pouvez entendre parmi vos proches. Revenons au fondement biblique. Alors, les descriptions que nous donne la Bible sont bien évidemment des images. Et ces images vont nous permettre de nous projeter pour un peu mieux discerner ce qu'est l'enfer. C'est un ver qui ronge sans fin. Vous pouvez essayer de le transposer, par exemple, dans votre corps. Hein? Pour des gens, par exemple, comme les lépreux, dont la chair se détruit petit à petit. C'est un feu qui brûle sans fin. Vous pouvez le transposer. Vous imaginez, quand vous êtes brûlé le bout du doigt, mais si c'est le deuxième doigt, si c'est ici, et ainsi de suite. C'est un lieu de ténèbres, avec la signification, bien sûr, imagée. Hein? Ça fait peur, les ténèbres. C'est difficile. C'est un lieu où il n'y a que pleurs et grincements de Dieu. Merci. Oh, ça fait plaisir, hein? Vous suivez. Hein? Merci, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Il n'y a que pleurs et grincements de dents. En somme, c'est un lieu où on boit, on vit la colère de Dieu. Où on vit une existence qui est marquée par la honte éternelle. Apocalypse 21, verset 8, nous parle, et c'est important, nous cite la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort? C'est le fait que, étant déjà mort physiquement, hein, on passe par une seconde mort, deux. Et ça évoque bien sûr le sort éternel de ceux qui ont refusé Christ. Et ainsi, ce terme de seconde mort nous exprime la notion qu'ils sont dans une mort éternelle, dans une séparation éternelle. Mais attention, ce n'est pas un anéantissement. Ils vivent dans un état de mort. Alors, j'ai un peu cherché, j'ai dit comment on peut un peu expliquer ça. En Romains 6, il nous est parlé qu'il nous fallait mourir au péché. Est-ce que vous n'avez pas besoin, moi et vous, de mourir au péché? Et pourtant, vous êtes vivant, que je sache. Il vous faut donc bien passer par une mort tout en étant vivant. C'est un peu pareil, je dirais. La seconde mort, c'est être mort à tout ce que Dieu avait prévu pour le bien-être de ses enfants. La seconde mort, c'est être mort, tout bien que vivant, pas anéanti, c'est être mort à la grâce de Dieu. Il n'y a pas possibilité de changer la donne. C'est être mort à l'amour de Dieu, à la joie, à la plénitude de Dieu. En résumé, pour repartir au début de la parole, c'est être mort à l'Éden, mort au paradis de Dieu. C'est avoir définitivement quitté le projet merveilleux que Dieu avait mis en place pour sa création, sa créature. Alors, la parole est très claire dans ses définitions de seconde mort, de géhenne, des temps de feu, ainsi de suite. Nous faire comprendre, sans description, certes géographique ou affinée, mais nous faire suffisamment comprendre que l'enfer est un lieu effroyable. J'ai lu un texte d'un de nos jeunes prédicateurs qui dit « La Bible, par ses termes, veut nous ficher la trouille de la colère justifiée de Dieu. » On n'a pas amplifié cette trouille, mais on a à l'intégrer, à la réaliser. Êtes-vous convaincu que Dieu est amour? Êtes-vous convaincu que Dieu est saint? Trois fois saint. Petite parenthèse, Trinité, trois. Vous pouvez faire une étude, est-ce que c'est cohérent? Pourquoi voulons-nous toujours appuyer sur l'amour de Dieu au détriment de la sainteté de Dieu? Vous réfléchirez à la croix. La croix, c'est la rencontre de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Mais si la sainteté de Dieu n'avait pas une telle exigence, une telle place dans sa personne même, il se serait contenté d'aimer les hommes sans donner son Fils. Et il aurait peut-être trouvé une solution, s'il n'était pas saint, pour qu'en effet tout le monde aille au paradis. La colère de Dieu est justifiée. Cette colère est nécessaire, si j'ose dire, à sa sainteté. Si Dieu n'est pas en colère contre le mal, il n'est pas un Dieu saint. Sa colère est la manifestation de sa détermination à détruire le mal. C'est ce qu'il a fait avec son peuple pendant toute son histoire. L'immoralité, l'abandon de son peuple auprès de lui, j'ose aussi remettre le terme, a contraint Dieu à juger ce peuple, au point de lui faire passer par des calamités comme les premières que je vous ai décrites en introduction. Dieu était contraint au nom de sa sainteté, pour un temps, je dirais, j'oserais dire, passer au-dessus de son amour pour réussir à nouveau l'équilibre qui le caractérise, amour et sainteté. Ainsi, la doctrine de l'enfer nous parle de la gravité de notre péché. Ce n'est pas ma conscience qui est déréglée, aveuglée, qui peut le faire. Ma conscience du péché, elle a besoin de grandir en lisant les textes concernant l'enfer. C'est la bonne échelle. Vous avez tous cette notion de conscience, vous avez tous un compteur sur votre voiture. Et quand vous passez devant un radar, ben vous dites, est-ce qu'il est juste? Alors moi qui suis cartésien jusqu'au bout des ongles, je suis passé sur la rocade 4 fois par jour devant un radar, et puis comme je suis un petit malin, eh ben, kilomètre par kilomètre, je montais le régulateur de vitesse, et puis je ne peux pas vous dire, ça serait un mauvais témoignage, jusqu'à combien on peut monter sans que le radar se déclenche. Mais la réalité, c'est que ma conscience, mon radar, mon compteur de vitesse n'était pas étalonné comme celui du radar, ou en tout cas, j'étais dans le vague. La doctrine de l'enfer me pousse à prendre conscience de la réalité de l'échelle de mon péché. La doctrine de l'enfer me pousse aussi à annoncer l'Évangile. Jésus était un prédicateur de l'urgence. J'ai lu ça et je trouve que c'est super. Dans aucun autre texte que les 4 évangiles, il n'a autant parlé de la gêne, Jésus. Sur le Nouveau Testament, il y a 12 textes, 12 versets sur ce terme de l'enfer, on va dire en résumé. Il y en a 11 dans les évangiles et un dans la lettre de Jacques. Nous sommes très loin du gentil Jésus qui pardonne tous, tout à tout le monde. Jésus est venu mettre en garde les hommes sur l'enfer. Et alors, je vais vous livrer une phrase terrible, mais elle n'est pas de moi, alors j'ose. Quel est le meilleur moyen d'envoyer spirituellement quelqu'un en enfer? Très bien. On a les mêmes infos. La réponse est très simple, ne lui en parlez pas. Pour moi, c'est une remise en question. Dans notre 20 et 21e siècle, quand est-ce que j'ai parlé de l'enfer en parlant, en témoignant à quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé? Ça va finir mieux que ça a commencé. Pourquoi? Parce que la révélation de l'enfer, sa noirceur, ses ténèbres, sa douleur, nous oblige à tourner les regards à 180 degrés vers la splendeur, la beauté, l'extraordinaire lumière de la croix. Sans la révélation, certes succincte, mais suffisamment claire, de la parole de Dieu sur le jugement dernier, nous ne connaîtrions pas Christ comme nous le connaissons aujourd'hui. Notre Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous sauver de l'enfer. Et c'est pour ça que, comme dit Éphésiens 1, à 3 fois de suite, il est digne que nous célébrons la gloire de sa grâce. L'enfer est la mesure qui nous permet de comprendre un peu plus ce que Christ a souffert à la croix. Je vous livre aussi une phrase que je trouve très belle et très représentative. Nous pouvons dire qu'à la croix, Jésus a subi notre enfer. Nous pouvons dire qu'à la croix, Jésus a subi notre enfer. Ce regard que la Bible nous permet de porter sur l'enfer est de nature à faire chanter, donc, en regardant la croix, nos âmes de joie, à aimer encore plus notre Seigneur, à bénir notre Dieu d'avoir donné son cher Fils Jésus-Christ pour nous arracher de l'enfer. C'est un fait. Tout homme en dehors de Christ marche, se dirige vers l'enfer. Aujourd'hui, c'est encore un jour de salut. Demain, il peut être trop tard pour vous, mais surtout pour toi. L'enfer n'est pas une doctrine pour les autres. Elle est une doctrine pour chacun. À la fin du livre de Job, il est dit ceci. Attention, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, ou d'une manière, et l'on n'y prend pas garde. Deutéronome, un des premiers livres de la Bible, nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives avec Dieu sur cette terre et l'éternité avec Dieu. » Oui, l'enfer existe. Nier une réalité n'a jamais annulé une réalité. Si vous niez votre maladie et que vous refusez les contrôles médicaux et les médicaments, vous n'irez pas mieux, voire pire. Dieu a choisi. Mais expérimenter dans la famille cette maladie appelée le cancer. On dit quoi? J'ai une tumeur maligne. Par définition, spirituellement, on peut dire du malin, mais déjà qui est caché. Nier la réalité d'une chose invisible ou cachée n'annule pas la réalité de cette chose. En conclusion, l'évangile se résume à deux rendez-vous. Rendez-vous que Jésus, Christ, envoyé du Père, fixe à tout homme. Un premier rendez-vous qu'il adresse à chacun d'entre nous, qu'il t'adresse aujourd'hui, c'est le rendez-vous au pied de sa croix pour ton salut éternel. Premier rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, tout homme qui aura refusé le premier rendez-vous, il lui est déjà fixé un rendez-vous, celui du jugement dernier, je dirais aux portes de l'enfer. C'est une réalité biblique, c'est le résumé de tout l'évangile de Christ. Choisissez qui vous voulez suivre, la mort ou la vie. Seigneur, on te prie que dans ces moments, tu nous fasses réaliser chacun la réalité incontournable, indiscutable, que tu es venu te donner en offrande, en sacrifice à la croix, pour sauver l'individu qui l'accepterait de la mort éternelle, de la seconde mort, de l'enfer. Nous te bénissons pour ceux ici qui ont fait ce choix de venir au pied de la croix, accepter cette vérité, te donner leur vie et être sauvés de l'enfer. Et nous te prions que dans cette journée, sans attendre demain ou après-demain, l'œuvre de ton esprit soit dans les cœurs pour convaincre ceux qui n'ont pas fait ce premier rendez-vous de la croix et les convaincre qu'il est un terrible rendez-vous qui les attend, sans pression sur eux, mais uniquement par amour pour eux. Nous voulons te prier de les convaincre de cette réalité. Amen. Je vous propose de chanter « Montre-moi l'aurore », le 1062, dont il est dit dans le refrain « La puissance de la croix ».